présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Je sens juste sa main, et puis j'entends comme une espèce de berceuse. C'est très confus, mais j'ai l'impression d'être une autre personne en vivant ça. Guillaume est très ému et confus. Il continue et lui dit : des fois, la journée, je fais des choses bizarres. J'ai envie de choses que je n'aimais pas avant. J'aimais pas manger certaines choses que maintenant j'aime. Je me sens attiré par des choses que je n'aimais pas. La musique classique, la peinture, les livres. Et puis, je sens une grande tristesse chaque fois que je vois un jeune homme, comme s'il me rappelait une personne perdue. Oui, une personne perdue. Il lui demande : et avec moi, qu'est-ce que vous ressentez ? Elle sourit et lui dit : c'est un peu indiscret ce que vous me dites là. Mais je peux vous dire, c'est qu'avec vous, je ne ressens rien. Rien de vraiment spécial, surtout pas d'antipathie. Il lui dit : merci, ça m'aurait fait de la peine que vous me disiez que vous ressentiez quelque chose de bizarre avec moi. Elle lui dit : si j'avais, ça avait été le cas, je ne vous aurais pas invité chez moi. Mais avec vous, je me sens en sécurité. Merci. Il sourit, mais en même temps, il a de la gêne. il lui demande. Vous croyez qu'en vous mettant un corps d'une autre personne, on vous a mis en même temps sa personnalité? Elle lui dit. Normalement, non, mais je ressens tout de même certaines choses, comme je vous l'ai dit. Malgré moi, je ressens des choses qui ne sont pas de moi. Il lui dit, ce doit être terrible. Oui, assez. Mais je ne veux pas y penser. Qu'un inconnu soit entré en moi, c'est terrible. Il lui dit, oui, n'y pensons plus. Parlons d'autre chose. Vous avez vu un film ces derniers temps ? Et ils passent l'après-midi d'une façon agréable à discuter. Guillaume, malgré lui, il ne peut pas enlever son malaise. Cette fille a le corps de sa mère. Pendant ce temps, il se passe une révolution dans le monde. Et cette révolution, c'est Félicien Pontois. Oui, le Félicien Pontois, celui qui est mort et à qui on l'a branché le cerveau sur un ordinateur pour qu'il puisse continuer à penser et dialoguer. Le fameux Félicien Pontois qui a eu une idée géniale qui révolutionne le monde de l'argent. Fini les billets, l'échec, les banques centrales, les ministres des Finances, l'euro est dépassé, c'est vieux. Félicien Pontois a eu une idée de génie comme d'habitude. Lui, l'homme le plus doué, a décidé, c'est de lancer une carte à puce pour les achats des produits Pontois et Genetout. Cette carte est la seule qui permet de payer Pontois Genetout. Il n'accepte que ce virement de paiement et les ventes se font directement dans le monde entier par Internet. Il suffit de poser sa carte sur l'écran pour payer. Vous faites le bon de commande d'après les produits que vous voyez sur l'écran. À chaque produit acheté, vous faites sur l'écran une croix sur l'article et marquez le nombre. Puis une fois que la commande est faite, vous appuyez votre carte sur l'écran. Elle marque votre commande et votre carte. Les cartes savent immédiatement si vous êtes débiteur ou non. Plus besoin de passer par la banque, le magasin, le grossiste, directement du fabricant au consommateur. La carte reçoit d'une façon virtuelle votre relevé, etc. Vos produits, entrées, débit et achat. En bref, entrée et sortie se fait automatiquement par la carte sans que vous en ayez à vous en occuper. Vous donnez à votre employeur et débiteur votre numéro de carte et la chose se fait automatiquement. Comme pour toi, Genetout veulent être payés que par cette carte spéciale produite par eux et comme ils sont premiers en biotech agricole, chimie, médecine humaine, vaccin, greffe, ordinateur, ADN, bateau, avion, eau, produits biologiques, diététiques, plus homme, animal, etc., chimie, télévision, radio, etc., etc., maison de disques. Ceci regroupe Pontoy et Jeune Toux, qui sont les deux premiers groupes mondiaux. Avec tous ces produits, tout le monde est obligé, c'est d'avoir une carte Pontoy Jeune Toux pour payer, ne serait-ce que l'eau. Ce qui fait que cette carte devient indispensable et les autres sont obligés de se grouper autour de cette carte pour que les gens puissent acheter chez eux. La carte de paiement Pontoy Jeune Toux devient la carte monétaire mondiale indispensable. Ce qui fait que le groupe Pontoy Jeune Toux a pris les finances du monde et qui peuvent faire la pluie et le beau temps. Une entreprise ne peut rien sans eux. Et si elle veut rentrer dans le jeu, il faut qu'elle fasse, qu'elle pleure pour prendre les règles du jeu Pontoy Jeune Toux. Jeune Toux détient les industries mondiales grâce à cette carte. La France devient le premier pays du monde. Galien donne une prise spéciale à Pontoy pour son idée. La bourse monte, les pauvres descendent. Des experts très qualifiés expliquent ça comme l'effet de balancier. Les syndicats qui doivent défendre les pauvres sont modernisés. Internet, carte Pontoy Jeune Toux, les dégagués se déplacent en voiture avec chauffeur. Une chef représentante syndicale est élue par Voici pour la femme la plus sexy de son temps. Les syndiqués sont fiers de leur déléguée la plus sexy. L'Europe s'est mal partie. Elle s'est lancée dans des choses vieillottes et investie dans des choses du siècle dernier, comme l'agriculture, l'industrie, au lieu d'investir dans les nouvelles technologies, l'informatique, la biotech, etc. Leur monnaie unique, euro, est morte avant d'avoir vu le jour. Seuls Pontoy et Jeune Toux sont à la pointe de l'avenir et à eux deux dominent le monde. Les gouvernements, les banques, les industriels se plient à leurs idées et ne peuvent se passer d'eux. Grâce à Jeune Toux, le monde se divise de cette façon. L'agriculture biotechnique à l'Afrique dans le désert. L'industrie dans les pays asiatiques. Les finances, la direction du monde, la vente, la technologie de pointe comme l'informatique, les médias, télévision, cinéma, disque, etc., la recherche médicale, la biotech, la chimie bactérielle dans les pays Europe et Amérique du Nord, le textile, l'Amérique du Sud, vêtements, fabrication et les animaux de bétail agricole. On passe du producteur au consommateur sans grossiste ou magasin. Le magasin, c'est Internet. Plus de catalogues, plus de pubs dans les boîtes aux lettres, aux journaux, aux télévisions, aux radios. Internet et la carte pour payer, c'est celle de Pontoise pour le monde entier. Ce qui fait pas d'argent et que tout l'argent passe obligatoirement par le groupe Pontoise. Entrée et sortie. Entrée, salaire, sortie, achat ou crédit, etc. Tout le monde entre chez Pontoise. Ce qui fait que le groupe, avec l'argent en dépôt chez lui, sert à ses investissements à lui. Et le prix de la carte avec puce, c'est 100 francs par mois et 500 francs par an pour le monde entier. Quel bénéfice pour rien. Simplement une carte à plus avec un central mondial à ordinateur qui reçoit les entrées et sorties d'argent de chaque carte 24 heures sur 24. Pontoise, vive la France, qui est devenue grâce à lui le premier groupe et la seule banque du monde. Les bourses du monde entier sont reliées au groupe de cartes et bientôt il n'y aura qu'une seule bourse dans le monde entier. Ce sera le groupe financier Pontoise. Lucien devient le premier banquier du monde. Galien détient la première banque du monde. C'est lui qui détient le sort de l'humanité. Les gouvernements ne sont que des potiches. La Banque monétaire internationale est supprimée. Il n'y a plus de banque centrale dans le pays, ni de banque privée, plus de ministre des Finances. Car chaque gouvernement de tous les pays doit demander l'avoir de leur budget à la banque Pontoise Juntou. Les pays helvétiques deviennent des pays en faillite et demandent à être des départements français car ils ne sont plus rentables avec leur chocolat et leurs vaches. La France accepte à condition c'est qu'ils effacent la dette de Napoléon. Pendant ce temps, les gens simples restent les mêmes avec leurs problèmes, chômage, maladie, etc. On a retiré de la circulation les billets et les pièces, les chéquiers, les cartes, les livrets, les bons de toutes sortes, pour être remplacés par la carte. Tous les Français et dans le monde entier, les gens ont reçu l'ordre d'aller chercher leur carte Pontoise Juntou, carte à puce avec photo et ADN dessus. Et déjà un chercheur chez Riquin cherche pour supprimer la carte et tout pour éviter le vol, etc. On introduit carrément dans le corps humain les données bancaires grâce à un receveur que l'on met à l'intérieur du corps, par exemple au cou, une puce qui reçoit par ondes des informations d'entrée et sortie des finances de la personne, et ces informations sont déposées sur le bout des doigts. La personne n'a qu'à déposer sur l'ordinateur le bout de son doigt pour payer et l'on sait ce qu'il a comme argent, crédit, débit, etc. automatiquement. Cela va en réalité se faire très rapidement. Le processus est au point, il ne manque plus qu'à le mettre en œuvre et c'est un peu long, car il faut mettre la puce dans le corps de chaque individu. Pas de danger, de douleur, de rejet. La personne ne sent rien, même lorsqu'il reçoit les informations, il n'y pense même pas. Et s'il oublie de mettre son doigt pour payer, l'ordinateur le lui dit. Avec toutes ces nouveautés, Galien a beaucoup de choses à faire et son temps est très pris. Il n'a pas le temps de s'occuper de Guillaume, savoir ce qu'il devient. Ses journées sont longues et voyage beaucoup. L'enfant n'a plus le temps de s'occuper de lui non plus. Il a donné à le faire à un détective privé.
Restez discret. Dites-moi seulement ce qu'il fait et s'il lui est arrivé quelque chose, vous me téléphonez de suite. Il faut le surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une personnalité très importante de notre groupe.
Se rend compte de rien. Il est tellement pris par ses problèmes amoureux que plus rien n'existe. Le premier du mois, un secrétaire de Galien lui donne sa somme, une très bonne somme, et c'est tout. Il ne cherche pas à avoir de rapport avec Galien et à savoir ce qu'il devient. Il revoit plusieurs fois la jeune fille, deviennent amis. Elle aimerait peut-être plus. Lui n'ose pas. Ils font les courses ensemble et quelquefois mangent chez elles. Lorsqu'un film leur plaise, ils vont les voir ensemble. Guillaume sent que la jeune fille cherche à aller plus loin, mais lui n'ose pas. Guillaume, en sortant de chez lui, tombe sur Gilles. Gilles le voit, lui dit : Salut, tu vas bien ? Oui, et toi ? Moi aussi, je suis congé aujourd'hui. Les élèves ont décidé de faire grève parce qu'on a voulu lui en délire pour avoir craché au visage de son professeur qui lui demandait de ramasser un papier qu'il avait fait tomber à terre. Guillaume lui dit : Et se mettre en grève pour ça ? Oui, et même une partie des professeurs sont du côté des élèves. Ils disent que c'est fasciste de donner des ordres à un élève. Guillaume lui dit, et c'est quoi de cracher sur un prof? Gilles lui répond, c'est de la contestation. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Guillaume lui répond, rien de spécial, moi aussi je suis congé. Gilles lui dit, viens prendre un verre chez moi? Guillaume lui dit, tu allais sortir? Non, comme ça. Mais j'aime mieux discuter avec toi chez moi. Ça te va? Oui. Et Guillaume suit Gilles. Ils sont entrés dans l'allée de l'immeuble de Gilles. Même type d'allée que celle de Guillaume. Tout à quatrième, sans ascenseur. Guillaume lui dit, comme chez moi. Il monte jusqu'au quatrième. Au quatrième étage, il va ouvrir la porte de droite qui n'a pas de nom. Entre. Guillaume entre. Couloir. Viens, allons au séjour. Il passe devant une porte et dit, c'est la petite cuisine. Ouvre et la lui montre. Elle est rectangulaire avec un buffet, une table, deux chaises peintes en blanc. Il ouvre une autre porte. C'est ma chambre. Une grande pièce rectangulaire avec cheminée en pierre, un lit à deux places avec un édredon beige, une armoire 1950, une table de nuit, une commode. Il y a sur le sol de la moquette grise. Il va ouvrir une autre porte. La chambre d'amis. À peu près la même que la dernière dimension que l'autre. Le lit est à deux places aussi, édredon rouge, avec une penderie en bois 1930, table de nuit, chaise, moquette marine. Salle de bain à côté et séjour. Bien, on va au séjour. Il ouvre la porte. Entre. Il entre.
Grande pièce avec deux fenêtres sur le même côté, une cheminée, un canapé, deux fauteuils en cuir noir, une table basse en verre, un buffet en bois et un coin bureau. Guillaume lui dit, t'es très bien logé, c'est rudement grand. Gilles lui dit, oui c'est pas mal, je m'y suis fait, j'ai meublé à peu près comme j'aime. Il manque les tableaux bien sûr, mais plus tard, j'ai jamais le temps de le faire. Va t'asseoir sur un fauteuil.
Guillaume va s'asseoir.
Gilles lui demande, qu'est-ce que tu veux boire? Jus d'orange? De tomate? De tomate.
Et Gilles va vers un buffet pour prendre bouteille, deux verres, des amuse-gueules, des piments qu'il va déposer vers la table basse où se trouve Guillaume.
Je vais chercher l'eau. Et il sort du séjour pour aller à la cuisine. Puis, il revient avec une carafe d'eau et fait le service.
Tu veux quoi avec ton jus de tomate?
Un peu de sel, merci.
Bien, merci.
Une fois qu'il est servi, il s'assoit sur le second fauteuil.
Après avoir bu une gorgée, je lui dis :
on est bien ici, pas de bruit, à part le train, mais on s'y fait. Guillaume lui demande :
t'as toujours vécu seul ?
Oui, sauf quelques brefs instants avec des amis de passage, mais rien de sérieux. Moi j'aurais aimé, mais les gens n'aiment que le superficiel.
Guillaume lui demande :
la solitude ne te pèse pas trop ?
Si, un peu.
Mais il faut s'y habituer. C'est comme l'âge, le temps qui passe. J'ai 40 ans et je commence à me faire du souci. Suis-je encore présentable, etc.
Guillaume lui dit :
oui, très présentable. Merci. Pour des gens comme moi, c'est très important.
Qu'est-ce que ça veut dire, des gens comme toi ?
Tu n'as pas remarqué ?
Non.
Eh bien, figure-toi que je suis homo et j'aime les jeunes gens comme toi.
Tu ne t'enfuis pas ?
Non, pourquoi ?
Tu n'as pas peur ?
Non. Gilles lui demande : et toi ?
Moi ? Rien.
Gilles lui demande : qu'est-ce que ça veut dire, rien ?
Guillaume lui dit :
rien. Ça veut dire que je n'ai besoin de rien. Je ne cherche pas.
En fait, si. J'ai le béguin pour une fille, mais je ne peux l'aimer.
Pourquoi ?
C'est un peu compliqué. Disons une histoire de famille.
C'est ta sœur ?
Non. Ta petite cousine ?
Non plus. Tu ne peux pas trouver. C'est trop compliqué.
Gilles lui dit :
bien, je ne cherche plus.
Si ça te gêne,
je ne cherche plus.
Ça ne me concerne pas.
Mais pour moi, ça te gêne que je sois comme ça ?
Non, pas du tout. Et pour toi, c'est pas difficile de l'être ?
Gilles lui dit :
oh oui, surtout dans ce milieu où le physique joue un grand rôle. Remarque, moi aussi j'étais comme les autres, des vieux, comme je disais, c'est-à-dire ceux qui avaient plus de 25 ans, je ne les aimais pas. Et puis, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était plus vieux que moi, il avait 10 ans de plus, il y a de cela 15 ans. Lui aimait et voulait pouvoir passer un moment avec moi, tu comprends ? Mais moi, cela me dégoûtait. Malgré tout, soit que j'avais un peu de cafard, que je m'ennuyais et que cela faisait un certain temps que je n'avais pas eu de rapport, que j'en avais assez de faire ça tout seul, alors je lui ai permis de s'amuser avec moi.
Malgré son âge, j'ai eu du plaisir. Bien sûr, je le prenais de haut et lui disais qu'il ne faut jamais en parler et le dire à personne.
J'ai eu du plaisir, mais moi, ça se fait tout seul. Il suffit qu'on me touche.
L'autre m'aimait bien. Il aurait voulu que je l'aime. Mais malgré tout, il était content que j'avais accepté que l'on fasse des choses.
Et puis, il a souffert que je le prenne avec dédain et dégoût.
Je lui disais toujours que pour moi, il n'était qu'un vieux et que j'étais incapable d'aimer un vieux.
Malgré tout, comme je m'ennuyais, nous avons fait plusieurs fois la chose. Quoique j'en avais du plaisir, pourquoi pas. Mais à la fin, à chaque fois, je le prenais de haut pour bien lui montrer que pour moi, il n'était rien. Et puis, j'ai plus voulu le revoir parce que j'avais trouvé un petit jeune, comme je disais. Il a beaucoup souffert que je ne le voie plus, veuille plus de lui. Nous sommes perdus de vue. Puis, j'ai eu des jeunes.
Et puis, pour moi, le temps a passé aussi. J'ai eu 30, 35, 40. Je me suis vu vieillir.
J'aime toujours les petits jeunes et je me trouve même pas vieux, même à 40 ans pour les draguer, alors que l'autre à 35 ans, je le trouvais ridicule de me draguer. J'ai compris ce qu'il pouvait ressentir.
Parce que moi, je le ressens lorsqu'un jeune me regarde comme un vieux.
Je fais attention à ma mise, m'habille jeune, coupe de cheveux jaunes. Attention à mes cheveux blancs que j'arrache. Je me masse le cou, me rase les jambes et fais attention à ne pas avoir des poils blancs. Quelquefois même, je me mets du fond de teint. Il m'arrive de me teindre les cheveux. J'essaie de marcher comme une allure de jeune, de parler jeune, d'aimer leur musique, d'avoir un briquet, un paquet de cigarettes, un préservatif, de la vaseline et quelques billets de 100 francs. En début de soirée, dans les bars, on se sent jeune et frais. Mais en fin de soirée, l'on sent de la fatigue, ou plutôt de la lassitude, de tant de musique, de bière, de fumée, de parler pour ne rien dire. Le visage se tasse, les rides commencent à venir. On a mal au dos. On se sent las de jouer au jeune et se dit que l'on n'est plus vivant. Alors on a peur de se regarder dans la glace, de voir un vieux con qui joue au jeune et dont on doit se moquer de lui. Les fins de soirée sont de plus en plus pénibles, lourdes, amères, seules, car la plupart du temps, le mec avec qui on a dragué toute la nuit est parti avec un autre plus jeune. On regarde autour de soi, les jeunes sont partis, il n'en reste plus que des mecs de ton âge ou plus vieux. Il y a de quoi te foutre le cafard, car eux aussi font comme toi, ils jouent aux jeunes. Et s'ils vont avec toi, c'est parce que le petit minet qu'ils ont dragué n'a pas voulu d'eux. Alors, la plupart du temps, tous, tu les laisses et tu retournes chez toi te coucher seul en te disant que peut-être demain. Une nuit, j'ai retrouvé la personne qui avait 10 ans de plus que moi et avec qui j'avais fait la chose. Mais lui, à cette époque, avait 5 ans de plus. Malgré que j'en avais 40, il a eu envie de moi et nous avons fait. J'ai fait ce que je ne voulais jamais faire. Je l'ai fait avec une personne de 50 et j'ai eu du plaisir. Un plaisir que je n'en ai jamais eu. Peut-être que je n'en aurais jamais. C'était peut-être à cause parce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je dirais, c'est quand même la nuit, il m'arrive de désirer ce que nous avons fait. Et oui, moi, avec un vieux de 50, désirer ce que nous avons fait. Comme tu vois, la vie nous apprend des choses. On croit qu'on ne fera jamais certaines choses et puis... Mais je rêve toujours d'avoir un ami, un vrai, qui veut vivre avec moi et que je puisse aimer. Guillaume lui dit, ça arrivera peut-être un jour. Il lui dit, je ne sais pas, les jeunes sont tellement spéciaux. Pour eux, il n'y a que l'argent qui compte. Les sentiments, c'est pas leur fort. Guillaume lui dit, ils sont pas tous comme ça. Gilles lui dit, toi par exemple? Oui. Gilles sourit et lui dit, attention, je peux prendre du plaisir à être avec toi. Guillaume lui dit, malheureusement, je suis pris. Ah oui, la jeune fille? Oui. Gilles lui demande, t'as déjà été avec un garçon? Oui, mais pour le moment, non. Bien, je n'insiste pas. Écoutons de la musique. Et il passe la soirée tranquillement et se quitte après dîner en se promettant de se revoir. Thank you. Nicole a invité chez elle Guillaume. Ils sont assis tous deux sur le divan. Elle lui sourit et lui dit « Je vous trouve extrêmement mignon. Vous avez de très jolis cheveux. Merci. Et vous, vous me trouvez comment ? Très jolie et même très belle. Vous avez aussi de très jolis cheveux et le reste aussi est très bien. » Elle lui sourit et lui demande « Vous avez une amie ? Non, j'ai personne et je ne veux personne. Pourquoi ? Parce que vous me suffisez. » Elle lui dit « Ça, c'est une déclaration. » Il rougit. Il ne sait que dire. S'il dit oui, il faudra qu'il fasse comme il faut. Et il ne peut pas à cause du corps de sa mère. Et s'il dit non, ce sera trop cruel. Il se sent gêné. Il a peur que ça aille trop loin. Elle se penche vers lui et lui caresse ses cheveux. Il est de plus en plus gêné et a peur que ça aille trop loin. Elle lui dit « Ne soyez pas si timide. Vous voyez bien que j'ai le même sentiment que vous. » Elle se penche un peu pour l'embrasser. D'un geste brusque, qui se lève. Elle est surprise et lui demande « Que se passe-t-il ? » « Rien. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. » Elle lui dit « Mais c'est ridicule. Dites-moi ce que vous avez. » Il rougit et lui dit « Rien. Je ne vous plais pas ? Si. Eh bien alors ? Rien. Qu'est-ce qui vous empêche de vous laisser aller ? Rien, je ne peux pas, voilà tout. Bon, eh bien, il faut que je m'en aille. » Elle soupire et se lève. Lui dit « Je comprends. Vous n'avez jamais été avec une fille ? Eh bien, moi non plus, j'ai jamais été avec un garçon. Comme cela, nous sommes de la même force et nous nous aiderons. » « Je suis idiote. J'ai été peut-être un peu brusque. Je vous promets que je me comporterai mieux. Et si nous nous aimons tous les deux, ça ira bien. » Elle sourit et lui dit « Vous avez l'air si mignon. On dirait un petit garçon. » Il est penaud devant elle. Elle lui demande « Vous devez vraiment partir ?» Il lui dit « Oui. Il se fait tard et demain j'ai des choses à faire. Bon, eh bien, je vais vous raccompagner. » Et ils sortent du séjour. Pour aller vers la sortie de l'appartement. Avant qu'ils ne partent, elle lui dit « Je peux vous embrasser au moins ?» Il lui sourit et lui dit « Oui, bien sûr !» Elle lui dit « Parce que j'ai connu un garçon qui ne supportait pas que les filles l'embrassent. Il était tellement timide. » Il lui dit « Je veux bien que vous m'embrassiez. » Elle l'embrasse sur la joue. Elle lui dit « Nous reverrons, n'est-ce pas ?»« Oui, bien sûr !» Et il la quitte penaud. En allant chez lui, il se dit « Je suis ridicule. J'aurais dû me laisser aller puisqu'elle le voulait. C'est ridicule cette histoire de corps. Le corps est une espèce de pompe et rien d'autre. » Deux jours plus tard, lorsqu'il la revoit dans la rue, il l'invite au restaurant. T'invites pas chez moi parce que je ne sais pas faire la cuisine. Et Souris lui dit, même pas les pâtes. Non, même pas les pâtes, ni les œufs. Mais qu'est-ce que vous mangez? Des conserves, et quelquefois même sans les faire cuire. Et c'est dégoûtant. Il lui dit, c'est pour ça que je vous invite au restaurant. Et ils vont dans un petit restaurant du quartier pour commander des crudités. Il lui dit tout en mangeant, je m'excuse pour la dernière fois. Elle lui dit, ce n'est rien. On a tellement l'habitude des garçons qui sont si entreprenants. Il lui dit, c'est pas ce que vous croyez, c'est plus compliqué que ça. Mais sachez, c'est que je vous aime beaucoup. Moi aussi. Plusieurs fois, elle n'essaye pas à l'effaroucher et se dit qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Lui aimerait bien essayer de faire le premier pas, mais il n'ose pas. À chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il pense à sa mère et cela lui donne envie de pleurer, ce qui le rend encore plus séduisant et gentil. Nicole flanche de plus en plus pour lui. Gilles, qui lui dit « Salut beau gosse, tu viens chez moi un moment ?» Guillaume aux ses épaules et lui dit « Oui, et ils vont chez Gilles. De toute façon, il n'a rien à faire et les journées sont longues. » Gilles demande, toujours la même boisson? Oui. Mais il va lui chercher le jus de tomate et tout ce qu'il faut. Merci. Une fois qu'il est servi, il s'assoit en face de lui. t'ai mis un piment spécial qui est aphrodisiaque. Guillaume boit une gorgée. C'est fort. Gilles demande, pourquoi du jus de tomate? Oh, c'est simple, cela me rappelle ma jeunesse. Lorsque j'étais jeune, chaque fois que nous sortions avec un copain, lorsque nous allions dans un café, nous demandions toujours du jus de tomate. C'était surtout parce que nous ne savions pas quoi commander. À cette époque, les jeunes étaient plus timides que maintenant, surtout dans les lieux publics. Voilà, Gilles lui dit, tu es charmant. Un véritable petit garçon, comme je les aime. Je te trouve très séduisant. Guillaume lui dit, merci, j'ai déjà refusé avec la fille que j'aime. Gilles lui demande, pourquoi? Tu veux rester vierge, c'est idiot. Guillaume lui dit, c'est compliqué, disons que j'ai peur de faire ce que je ne devrais pas faire. Gilles lui dit, ah oui, parce qu'elle fait partie de ta famille. Non, pas tout à fait. Eh bien, alors, vas-y. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Gilles hausse les épaules et lui dit, avec moi, c'est quoi? Avec toi, c'est parce que je suis amoureux d'elle. Gilles lui dit, j'aurais mieux aimé que ce soit à cause de mon âge. Guillaume lui dit, non, pas du tout, parce que tu ne fais pas ton âge et que je te trouve même assez séduisant. Merci, mais promets-moi, c'est que si tu as fini avec la fille, tu viens avec moi. Avec moi au moins une fois. T'es tellement séduisant et mignon, j'en meurs d'envie. Guillaume lui dit, je voudrais peut-être mieux que l'on ne se voie plus pour éviter que je te fasse souffrir. Oh non, j'aime tellement te voir. Tu es un véritable bijou. Et ils continuent à se parler agréablement. Se dire bonjour et au revoir, Nicole et Guillaume s'embrassent sur les joues. Leurs baisers sont tellement chaleureux que cela donne espoir à Nicole. Elle se dit, puisqu'ils se laissent embrasser, il est peut-être apprivoisé. Elle continue à l'embrasser de plus en plus longuement et le tient serré contre elle. Lui se laisse faire car il est pris par son corps. Il ne se rend pas compte du danger. Un soir, chez elle, ils sont tous deux assis sur le divan. Elle lui dit, maintenant que nous entendons bien, nous pouvons essayer de vivre ensemble. Il lui dit, non, c'est pas possible, je ne peux pas. Mais pourquoi? Puisque vous m'aimez bien. Oui, bien sûr, mais je ne peux pas. Elle lui prend la main et lui dit, oh chérie. Lui donne un baiser sur la joue. Pose sa tête sur son épaule. Elle lui dit, vous voyez que vous pouvez, c'est pas si difficile. Elle se dégage, lui prend des deux mains sa tête et lui dit, écoutez comme mon corps bat pour vous. D'un geste brusque, il retire sa tête et se lève. Non. Elle le regarde surprise, puis furieuse, se lève. Je ne comprends pas votre façon d'être. Partez. Penaud, il s'en va.
chez lui. Il va s'allonger sur le lit pour pleurer.
Il se dit, j'aurais jamais dû connaître la personne qui a le corps de ma mère. Il souffre, aimerait mourir. Il a peur de ne pas la revoir. Peur de la revoir. Il décide de mettre fin à cette histoire. C'est simple, j'ai qu'à m'en aller et retourner chez Galien. Ici, je suis qu'un personnage. Ici, je ne suis qu'un personnage. Oui, je pars. Je pars.
Le lendemain matin, il fait sa valise.
Je souffrirai pendant quelque temps, mais après, je serai libre.
Après avoir fait sa valise, il sort pour aller prendre son petit déjeuner au café qui est en bas.
En allant au café, il tombe sur Nicole. Elle l'a vu, va vers lui. Il est rouge de honte. Elle lui dit « Bonjour, bonjour. » Elle lui demande « Vous allez quelque part ?»« Oui, j'allais au café. »